BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission, l'association de la semaine. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir l'Alindo Saint-Marcel-Vernon, présenté par Patricia Echard et Jean-Marc Olubec. Alors tout d'abord, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour.
Bonjour, ça va bien.
Merci. Ça va bien, il fait à peu près beau en ce moment, on est content.
C'est
oui,
clair.
Tout à fait.
Ça change un peu. Alors avant de parler de votre association, on va parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous pour vous présenter auprès de nos auditeurs? Peut-être vous, Jean-Marc, qui commencez?
Donc je suis le président de l'association de l'Alindo depuis 2017. Je suis un nageur occasionnel et ma foi, j'aime bien ce sport parce que ça permet de se maintenir en forme et de rester un petit peu dans l'esprit sportif.
En forme physique aussi.
En forme physique également.
Et vous, Patricia?
Eh bien, moi, je suis la secrétaire du club de l'Alindo et en même temps, je suis nageuse dans le club depuis 5 ans, après une interruption de la natation d'une trentaine d'années pour moi. Et puis, je suis revenue il y a donc 5 ans nager et j'ai tout de suite été embarquée dans le groupe compétition du club. Donc, voilà. Et donc, Je suis vraiment contente d'être revenue nager au sein de la Lindo.
Comment vous est venue un petit peu cette passion autour de la natation, du coup?
Écoutez, c'est à partir de mon enfance. Donc, j'ai commencé quand j'étais en 5e, je pense. Et puis, j'ai fait de la compétition jusqu'à ce que je quitte Vernon pour mes études. Et puis, ça a toujours été mon sport favori. Donc je me suis arrêtée de nager. Et puis, à un moment, l'envie a été trop forte.
Ça vous manquait trop.
Je suis revenue. Voilà.
Et vous, Jean-Marc, comment est-ce que vous êtes retrouvé au sein du club?
Ce sont mes enfants, en fait, qui voulaient faire de la natation. Et du coup, j'ai suivi parce que je me suis rendu compte que c'était un sport complet, qui n'était pas trop traumatisant. Et après, au fur et à mesure, je me suis intéressé, surtout l'ambiance du club me plaisait et j'ai continué à m'entretenir.
Et surtout, ce qui est bien avec la natation, c'est que ça apporte énormément de bienfaits. Notamment, moi, on m'a toujours dit, quand on a un peu mal au dos, ça fait toujours un peu de bien.
Il faut savoir que que ce soit dans les adhérents enfants ou adultes, un certain nombre d'entre eux sont arrivés à la natation sur des conseils médicaux pour un côté santé. Bon, certains pour d'autres raisons purement sportives, mais notamment chez les adultes, certains sont arrivés à la natation sur des conseils médicaux. Et finalement, se sont pris au jeu, sont devenus des fois de bons nageurs, mais l'aspect santé a joué en partie dans leur motivation.
Alors du coup, pour le club de la Lindo, présentez-nous un petit peu ce club. Déjà, depuis combien de temps est-ce qu'il existe?
Ce club a été créé en 2002, en août 2002. Les statuts ont été déposés à la préfecture d'Évreux par le bureau précédent, par l'ancien président qui était M. Lelouédec. Et ensuite, au fur et à mesure, il y avait deux clubs à Vernon. Il y avait le club de Saint-Marcel qui... C'était le club de natation qui s'appelait les Nautiles. Et puis après, il y avait le club de Vernon, qui c'était un club de natation avec le club de musculation et de santé, le CMSV. Ensuite, les Nautiles avaient arrêté leur activité. Donc, il a fallu reprendre tout. Après, ça a été déposé en août 2002, les statuts. Et après, en septembre 2002, la saison a redémarré avec une poignée d'anciens adhérents du club des Nautiles qui ont, avec l'accord de la municipalité de Saint-Marcel, de s'investir et de remonter une nouvelle structure natation orientée loisir à l'origine.
À l'origine, c'était orienté loisir et du coup, aujourd'hui, au sein du club, il y a loisir et compétition, j'imagine.
Tout à fait.
C'est quoi la part la plus importante au sein du club? Je veux dire, il y a plus d'adhérents qui sont là pour le loisir uniquement ou plus d'adhérents qui sont là pour la compétition?
On a plus d'adhérents pour le loisir. La compétition, c'est un peu plus, c'est ardu, donc. Les adhérents sont un peu frileux, si je peux me permettre, pour faire de la compétition. Puis après, c'est pas mal d'investissement le dimanche, de temps personnel. Donc, voilà, les gens préfèrent faire du loisir pour s'entretenir physiquement.
Oui, c'est un sport, la natation, que tout le monde peut pratiquer, puisque en temps normal, les piscines sont assez facilement accessibles. Et du coup, ça a ce côté beaucoup plus loisir qui ressort, même si... Au niveau compétitif, j'imagine que ça doit être quand même un sport sacrément dur pour pouvoir garder cette régularité, cette force, cet entraînement.
Alors, tous nos adhérents, même s'ils se pratiquent en loisirs, sont quand même licenciés à la Fédération Française de Natation. Donc, nous, on est un club, on va dire, loisir, mais on est quand même là pour apprendre à nos nageurs à se perfectionner dans les quatre nages officielles de la natation, le dos, la brasse, le crawl, le papillon. Donc, après, chacun les pratique à son niveau, mais l'idée, c'est que chacun puisse pratiquer ses quatre nages. C'est vraiment de la natation, on va dire malgré tout sportive, même s'il n'y a pas de but de compétition derrière.
Ouais, il y a quand même la volonté pour tout le monde de continuer de s'améliorer. Et de
voilà, d'avoir quand même une amélioration technique de la natation avec des entraîneurs qui sont quand même des diplômés. Donc voilà, donc on est quand même orienté sur la technique de nage qui permet aux gens de progresser.
Bah, justement,
c'est l'intérêt d'un club.
Justement, parlant de technique de nage, comment est-ce qu'on s'entraîne vraiment? Comment est-ce qu'on apprend à bien faire les différentes nages? Vous disiez brasse, papillon, dos et crawl, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Comment est-ce qu'on apprend parfaitement, comment est-ce qu'on réussit à améliorer les différents gestes?
Les entraîneurs ont, je pense, une pédagogie qui permet petit à petit d'améliorer la gestuelle, au niveau que ce soit de la respiration, de la poussée dans l'eau, des différents gestes des bras et des jambes, de la coordination aussi. C'est quelque chose qui est peut-être le plus difficile à obtenir, c'est-à-dire la coordination entre les gestes des bras, des jambes et la respiration. Donc après, on a toute la partie apprendre à plonger, apprendre à faire des virages. Donc c'est vraiment un entraînement complet pour apprendre la natation.
Parce que j'imagine que ça doit être vraiment compliqué, comme vous disiez. Alors on parle beaucoup de la coordination bras-jambes, mais on n'a pas forcément le réflexe de penser à la respiration. Mais oui, il faut savoir respirer en rythme, j'imagine déjà. Oui. Parce que si on se retrouve à prendre une grosse bouffée et en étant dans l'eau, bon.
Les entraîneurs sont quand même des gens qui sont formés pour ça et qui savent amener pédagogiquement l'enfant ou même l'adulte vers une nage correcte.
C'est quoi les spécificités des différentes nages? Quelle est peut-être la plus simple à pratiquer?
Alors la plus simple à pratiquer, je dirais que c'est le crawl.
Oui.
Qui est la plus connue, j'ai envie de dire même.
La plus connue et la plus difficile à pratiquer, c'est la brasse.
Ah ouais.
Contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est la brasse, parce qu'en fait, on nage la brasse dite la brasse coulée, c'est-à-dire que la plupart du temps, on souffle dans l'eau et on reprend sa respiration en faisant le mouvement de bras pour attirer un maximum d'eau, pour prendre de l'élan, pour replonger à nouveau, pour essayer d'avoir une brasse le plus efficace possible.
Mais d'accord.
La plus destructrice, je dirais, c'est la brasse.
C'est la brasse.
Ah ouais?
Paradoxalement, alors qu'on a tendance à penser qu'on l'apprend en premier, parce qu'on peut aussi la nager la tête complètement hors de l'eau, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'apprend en premier, mais la vraie nage, la vraie brasse est la nage la plus compliquée au niveau coordination et respiration.
Et vous l'expliquez comment? C'est par ce côté devoir remonter la tête de l'eau et en même temps de faire les mouvements avec le bras.
De dissocier le mouvement de bras du mouvement de jambes qui doivent être consécutifs pour pas perdre en propulsion et en même temps qui nécessitent pas mal d'énergie et beaucoup de symétrie dans le geste.
Il y a aussi le fait que la brasse, c'est pas une nage d'aptitude humaine. C'est-à-dire on a les articulations qui sont faites pour tourner. Et la brasse, ce sont des mouvements dissociés, des bras et des jambes. Donc les articulations de l'homme, de l'être humain, ne sont pas prévues à l'origine pour faire de la brasse.
D'accord, ok.
En fait, un brasseur, on le voit, un brasseur au niveau de son ciseau de brasse. On a toujours des brasseurs, et vous remarquerez dans les compétitions que les brasseurs, généralement, ont du mal à faire au niveau des chronos, des temps identiques à ceux que font les crawlers.
Oui.
Ou même les dossistes. Les papillonneurs, le papillon, ça serait une nage qui se rapprocherait le plus de la brasse. Moi, je suis moins technicien d'origine, mais en voyant les nageurs évoluer. Mais bon, la brasse, c'est spécifique quand même. Vous voyez beaucoup de brasseurs qui ne font pas de crawl ils savent le nager.
Ouais.
Mais ils sont moins performants en crawl et en dos qu'en brasse.
Ah, ils sont spécialisés vraiment.
Ils sont vraiment spécialisés parce que justement, ils ont ce qu'on appelle le ciseau de brasse avec les jambes, et c'est un peu inné. On a le ciseau ou on ne l'a pas. On a du mal à l'acquérir au cours de son évolution aquatique, si
ça,
je peux me permettre.
Ça nécessite une énergie assez, assez importante, la brasse. Et c'est vraiment à déconseiller aussi pour les gens qui ont mal au dos.
Ah oui. Et moi, il y a la natation qui m'impressionne. Alors, ça ne se voit pas trop visuellement, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le dos, notamment quand ils arrivent vers le virage. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, je vous avoue. Comment c'est, ça se passe, du coup, au niveau du dos quand on...
Vous avez des petits drapeaux, si vous regardez bien, au-dessus
ah
du
ouais
bassin.
Ah ouais.
À 5 mètres du bord, vous avez une
on
ligne de drapeaux.
Comme ça, d'accord.
Et après, c'est une question de connaissance de sa nage et de savoir qu'il nous reste tant de mouvements de bras à réaliser jusqu'au mur, ce qui évite de rentrer dans le mur.
Parce que ça, c'est calculé. Enfin, le nageur, dans n'importe quelle nage, il sait à peu près le nombre de mouvements de bras.
En dos, au mieux le savoir. C'est une nage. En plus, c'est une nage compliquée, le dos. En fait, toutes les nages sont compliquées à acquérir, bien sûr, mais le dos, on n'a pas de repère. Parce qu'en fait, vous avez. Si vous êtes dans un bassin couvert, il n'y a pas de problème. Vous avez un repère par rapport au plafond.
Ouais.
Mais si vous êtes dans un bassin extérieur, notamment en compétition, où, là, vous avez que le ciel. Et si le ciel est bleu, vous comprenez aisément que c'est compliqué à se repérer. Alors donc, après, c'est une question de savoir nager, de bonnes techniques. Et puis après, ça s'apprend, ça s'acquiert. On ne l'acquiert pas du jour au lendemain, mais ça
oui,
s'acquiert.
Oui, bien sûr. Il faut de la régularité
et
après.
Donc, comme disait Patricia, on a le drapeau à 5 mètres du bord du bassin. Et ensuite, les nageurs comptent leurs mouvements en fonction de leur vitesse. Et ils jettent un petit coup d'œil en mettant leur tête à l'envers dans l'eau. Tout ça, c'est une technique qu'on ne voit pas forcément quand les gens nagent à une certaine vitesse. Et ensuite, ils se retournent, puis ils font une culbute, ils amorcent une culbute. En fait, il y a des règles. On amorce une culbute et tout de suite, on se repousse, on prend appui sur le mur par les pieds, on se repousse ouais pour essayer de regagner un maximum de propulsion pour repartir, pour essayer de, si je peux me permettre, de griller ses concurrents.
Ouais, c'est ça, ça se joue souvent au virage dans les compétitions qu'on peut
tout
voir
à
la télé.
Ça se joue au virage et à la coulée, c'est pour ça que vous avez des nageurs de haut niveau, même déjà de nageurs qui sont en régional ou même en départemental. On voit si les coulées sont efficaces, le nageur a des fortes chances, avec la conjugaison de la poussée sur le mur, plus le fait de la vague en repartant du mur,
ouais,
si vous voulez, il a des chances de pouvoir passer devant son adversaire. Et généralement, quand les nageurs font des bonnes coulées et qu'ils ressortent avant les autres, généralement, ce sont eux qui sont favoris pour vaincre, pour gagner la course.
Ça veut dire qu'ils ont le mieux géré leur virage, quoi.
Voilà, ils ont à un moment donné, ils ont mieux géré leur virage. Et vous arrivez avec une certaine expérience à voir sur un départ de nage, sur un départ de dos ou un départ de crawl, même n'importe quelle nage. Vous arrivez à voir si le nageur a fait un bon départ ou un mauvais départ, et s'il va briller dans sa course ou si les autres vont être meilleurs que lui.
D'accord, ok. Alors venons un petit peu plus donc du coup sur le côté de la ligne d'eau Saint-Marcel-Vernon. Comment ça se passe en temps normal, une saison, on va dire une saison en temps normal de natation? Déjà c'est de quand à quand?
Alors la saison démarre en général au mois de septembre, comme beaucoup d'associations, donc on se réfère à l'année scolaire. Donc on démarre en septembre, on a pris le choix maintenant de démarrer à peu près au moment du village des associations, qui est un peu un repère qui est devenu maintenant à Vernon une date butoir pour démarrer. Et puis on termine la saison à la fin des vacances, enfin au début des vacances d'été, sachant que nous on s'interrompt aussi aux vacances de Noël. En général c'est parce que la piscine ferme pour fermeture technique. On propose en général à nos nageurs des stages pendant les vacances scolaires, février, Toussaint, février, Pâques. Et puis on reprend souvent pour nos compétiteurs un petit peu avant le début de la saison. On arrive à reprendre avec eux fin août pour les remettre dans le bain. Voilà. Les premières compétitions, c'est dès le début octobre en général, avec un grand moment en général qui sont les interclubs, qui sont souvent au mois de novembre. et qui là permettent de tout de suite montrer un petit peu les forces en présence, puisque c'est une compétition par équipe de 10 personnes et chaque club doit présenter au minimum 10 nageurs qui s'affrontent sur toutes les chacun doit réaliser une course plus des relais. Donc d'accord. Ça c'est un bon moment pour montrer un petit peu quel est le club le plus en avance.
Le potentiel du club.
Et après, chaque compétition est qualificative pour les championnats départementaux, régionaux, qui sont des compétitions avec des temps minimums à réaliser, ouais. Des minima à réaliser et qui se font sur qualification. Donc,
ce format de minima, on le voit toujours après à la suite, que ce soit les championnats nationaux, européens, mondiaux, même les JO.
Voilà.
C'est un format qui reste le même. Peu importe le niveau, quoi.
Voilà, il y a toujours, dès que c'est championnats départementaux ou régionaux, il y a des temps minimums à réaliser. Voilà, donc...
Vous avez des grilles de temps qualificatives qui sont établies en fonction de la catégorie d'âge, de la catégorie du sexe, féminin ou masculin.
Oui, bien sûr.
Les garçons nagent plus vite que les filles, c'est comme ça. Les filles sont mûres avant les garçons, mais les garçons nagent plus vite que les filles.
Les filles sont mûres avant les garçons?
Oui,
en natation. Oui.
On a même dans les catégories d'âge un décalage d'un an sur le changement de catégorie entre les filles et les garçons.
Ah d'accord.
Les filles passent dans la catégorie jeune ou la catégorie junior ou senior un an avant les garçons.
C'est pour ça que généralement, alors je vais prendre l'exemple de Laure Manaudou qui avait été très jeune quand elle avait vraiment été très
Mais eux, c'est les élites, c'est autre chose.
Oui, pour l'élite, oui, bien sûr, mais ça montre que dès très jeune, on peut être...
Oui, dès très jeune, mais après, ça dépend de la volonté du nageur. Après, ça, c'est encore... Laure Manaudou, c'est encore un autre sujet, parce que là, dans la globalité, Laure Manaudou reste exceptionnelle avec...
Oui, bien sûr.
Les nageuses qu'il y avait, Camille Muffa et tout ça, toutes ces nageuses sont quand même... C'est des entraînements très longs, très lourds. Et donc, c'est une question de.
Au niveau, on retrouve plus facilement des filles de 17 ans que des garçons de 17 ans.
C'est
vrai.
Par contre, les garçons, et dans le temps, ils vont durer davantage.
Encore des garçons à 27, 28 ans, 30 ans même pour ça.
Par rapport aux filles qui sont après, c'est un peu plus compliqué.
J'ai l'impression que la natation, contrairement à beaucoup de sports, c'est un sport où le maximum physique de l'athlète s'atteint le plus vite par comparé à d'autres sports. J'ai l'impression peut-être que dépasser les 28-29 ans, on les voit de moins en moins de nageurs de 35.
Il y a peut-être une lassitude aussi sur les contraintes que ça nécessite dans la vie personnelle. Donc c'est vrai que ça, quand on voit que les champions sont dans l'eau à 6h du matin, contraintes comme tous les sports de haut niveau, mais peut-être que celui-là est encore plus compliqué à gérer quand on atteint un certain âge.
Alors au niveau des derniers bons résultats, on va dire, de votre club. Comment est-ce que ça s'est passé? Quels sont les résultats significatifs qu'il y a eu récemment au sein du club?
Alors, on peut dire que la saison 2020 a été quasiment inexistante, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de compétition. 2019-2020. En 2019, ça a été une bonne année pour nous, puisqu'on a eu une jeune fille qui a été qualifiée au championnat de France jeune. Donc,
ça devait être une fierté.
Voilà, donc à 12 ans, elle avait déjà eu des records régionaux. L'année donc 2019-2020 s'annonçait bien aussi au tout début. On a eu quelques jeunes qui promettaient, genre comme Catalina, qui avait déjà commencé à battre pas mal de records, et puis la saison s'est terminée là. Chez les adultes, dans la catégorie des maîtres, qui est une catégorie à part, on a pu participer l'année dernière au championnat de France N2, c'est-à-dire niveau 2, puisque les championnats de France niveau 1 avaient lieu en Martinique, c'était un petit peu loin, et on a eu un titre de champion de France aussi aux 50 mètres d'eau par un de nos nageurs qui a été champion de France.
Voilà. C'est quand même très bien quand même là, d'avoir un champion de France.
Complètement.
Alors c'était 2018-2019.
C'était 2019-2020. C'était la dernière avant le confinement. C'était en février de l'année dernière.
D'ailleurs, un an. Juste avant de conclure cette émission, on est obligé de parler très vaguement, mais là j'imagine que les activités sont pas possibles pour vous parce que les piscines sont fermées, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et donc, vous retrouvez comment à faire une sorte de suivi avec vos adhérents? J'imagine que vous gardez contact avec eux, mais ça doit être...
C'est compliqué, étant donné qu'on a des gens qui, dont l'envie, c'est de nager, et leur proposer des activités en dehors de la natation, on leur propose, puisque notre entraîneur, chaque semaine, propose un petit planning de ce qu'on appelle la PPG, la préparation physique sur Internet, donc leur propose un programme. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est pour rester en contact avec les adhérents et leur proposer une activité physique qui malheureusement n'est pas celle dont ils ont forcément
envie. Celle qu'ils espèrent, voilà. C'est ça. Et quand vous dites PPG, il y a beaucoup de gainage, j'imagine, dans le...
Ce genre de choses, ouais. Oui. Voilà, tous les exercices qui sont devenus presque à la mode en ce moment.
Ouais. C'est les seuls qu'on peut faire.
Voilà. Voilà. Donc, on attend des nouvelles maintenant de la réouverture pour pouvoir proposer à nos adhérents des entraînements de nouveau.
Ben on espère le plus vite possible, en tout cas.
Ah oui.
Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, du coup?
Alors, vous avez notre site internet.
Oui.
Donc, la Lindo.
On a une boîte aux lettres mise à disposition à la piscine de Saint-Marcel, avec marqué la Lindo sur l'entête, sur la porte.
Une page Facebook.
Une page Facebook aussi, on a un téléphone où on peut joindre, on peut me joindre pour, si on a besoin de renseignements complémentaires, ou voir comment ça se passe, ou éventuellement l'accueil de la piscine.
Eh bien, merci beaucoup Patricia Echard et Jean-Marc Colubet.
Merci de nous avoir accueillis. Et
merci de nous avoir encore parlé de la Lindo et de parler un peu de sport, ça fait du bien en ce moment.
Tout à fait.
Merci.
On a un peu de mal à voir le bout de toute cette histoire. C'est tout pour votre émission, l'association de la semaine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.